oriental. J'ai réduit totalement cette histoire.
Moi, c'est bien que vous combattiez au pas de l'ombrage, en combinant les deux, de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde à nouveau la parole. Le gouvernement congolais a été saisi pour avis d'une proposition de loi élaborée par deux députés nationaux qui ont constaté que le législateur congolais n'a pas depuis 2005 fixé les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Certains observateurs ou certains hommes politiques ont dénoncé une volonté du pouvoir de modifier la constitution par voie référendaire. Le ministre Lambert Mende Omalanga des médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo a soutenu jeudi dernier à Kinshasa que le fait de disposer de cette loi ne signifie pas qu'on veut absolument organiser le référendum. Que pensez-vous de ce débat? En direct, vous pouvez nous rejoindre dans ce débat au 081 890 63 15. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos messages sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiokapi.net. Hippolyte Kapanga est à la technique, Julie César Bongo à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, bienvenue pour toutes les auditrices et auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en l'espace.
Alors, que pensez-vous de ces débats autour de la proposition de loi portant organisation des référendums en République démocratique du Congo?
Oui, la proposition, elle est en fait légale, dans la mesure où elle doit répondre à un besoin. Et le besoin, c'est en termes en fait, d'opportunité. Et je dois peut-être m'exprimer. Je pense que lorsqu'il faudra initier une loi, comme je disais tantôt, il faut peut-être répondre à un besoin. Alors, dans le cas du référendum, la loi a prévu de prendre trois hypothèses pour lesquelles un référendum peut être inutile. Je crois à la délocalisation de la capitale, il y a une partie peut-être du territoire, du territoire national qui doit être cédé. Il y a, je crois aussi, le changement des noms de la ville ou de la capitale, quelque chose comme ça. Donc, dans le cas d'hypothèse, je peux en fait me demander au moment où nous sommes, quelle est l'hypothèse qui est en fait mise en avant-plan pour justifier plutôt cette proposition de loi. Alors, vous savez, les moments que nous sommes en train en fait, de parcourir rapidement ne peuvent en fait faire l'objet d'une telle démarche. Et cela me rappelle en fait la proposition de loi Cavalier a été initié à la veille des élections de 2011. En janvier 2011, ils ont initié une loi Cavalier et en toute consultation réduisant le nombre de tours à la présidentielle. Les deux tours ne sont passés de deux tours à un seul tour. Et vous avez vu toutes les conséquences possibles que cette modification a en fait, engendré dans la société congolaise. Nous avons en fait une crise de légitimité qui est née en fait de cette modification dont le président a été élu par la minorité des Congolais. Et aujourd'hui, cette modification n'a pas pu en fait arranger les choses, raison pour laquelle vous voyez que depuis la mise en place en fait de l'institution de 2011 jusqu'à ce jour, le pays ne fait que titiller. Alors, je me demande au moment ici, pourquoi on doit initier une telle loi? Si c'est pour combler un vide juridique, pourquoi cela n'a pas été fait pour constater depuis 2011 jusqu'à ce jour? C'est maintenant à 11 ou 12, plutôt à 13 mois de l'élection générale, qu'on doit penser à initier une telle loi, pendant que les millions de Congolais prêtent des intentions suicidaires à la M2 et chercher à tout prix à vouloir en fait modifier ou changer la constitution. C'est ça en fait la question que je me pose en tant que Congolais. Et nous sommes des Congolais qui nous suivent. On doit aussi savoir pourquoi seulement maintenant. Voilà la question.
Merci beaucoup, Maurice. Vous partagez l'avis selon lequel que cette proposition est réellement légale. Mais vous évoluez dans votre réflexion en disant que elle demeure comme telle dans la mesure où elle doit répondre à un besoin. Et pour les cas d'espèce, les constituants avaient déjà défini les conditions dans lesquelles ce référendum peut être convoqué, notamment quand il s'agit de la délocalisation de la capitale ou encore des changements des noms d'une ville ou encore de la capitale, ou dans un autre cas, je crois que le référendum est nécessaire. Mais vous vous posez la question, pourquoi avoir attendu longtemps? Parce que les constituants y a travaillé depuis 2005, pourquoi cette loi portant organisation du référendum n'a pas été proposée bien avant, au lieu de le proposer maintenant, au moment où tout le monde prête des intentions ou fait des procès d'intention aux uns et aux autres par rapport au processus électoral? Merci beaucoup Maurice d'avoir ouvert ce débat. Nous allons prendre Adrien de Kananga. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez la parole, Adrien.
Oui, je m'en vais d'abord saluer et féliciter mon compagnon Maurice Kinshasa. Je pense, Gilles, que nous devons faire d'abord la part des choses. Il est vrai que la loi référendaire est prévue par notre constitution, qui est la loi fondamentale. Il est aussi vrai que cette loi peut être cette disposition constitutionnelle. La disposition constitutionnelle ne donne pas un timing pour dire que non, il faut que cette loi-là intervienne dans 2 ans, 3 ans, non. C'est-à-dire, elle peut intervenir à tout moment. Mais là où le bas blesse, c'est comme Maurice a eu à le dire. Nous sommes en train de traverser une période un peu critique. Donc, tous les Congolais, leur pensée reste tournée vers l'organisation des élections à tous les niveaux possibles. Bon, lorsqu'on nous propose par les deux honorables députés une telle loi, et en voyant donc la succession des faits qui se sont déroulés dans notre pays, nous disons que là, les Congolais ont raison de dire que peut-être cette initiative, c'est pour donc revoir l'article 220, parce que la matière prévue par cet article 220 ne peut être résolue que par la voie référendaire. Donc là, c'est un fait. Deuxièmement, je me dis, si nos amis qui dirigent le pays, donc la majorité présidentielle, estiment que la population congolaise a tort de raisonner en prêtant des intentions, même si elles n'ont pas cette intention-là pour modifier l'article 220, s'ils estiment réellement que la population a tort, moi je pense qu'ils peuvent renoncer d'abord, ils peuvent renoncer à cette proposition de loi pour apaiser tout le monde. Parce que s'ils renoncent, à ce moment-là, même ceux-là qui leur font des intentions, diront que non, c'était à tort qu'on prêtait des intentions, parce que eux n'ont pas cette intention-là, voilà, ils viennent de renoncer à cette proposition de loi. Et puis, j'ai quelque chose encore de très important, c'est que cette loi-là, nous nous demandons est-ce qu'elle est opportune pour le moment. Je réponds par la négative, je dis que non, elle n'est pas opportune, mais elle est nécessaire pour notre pays. Donc, si déjà je réponds par la négative pour dire qu'elle n'est pas opportune, donc moi je pense qu'on peut d'abord chercher à traiter la matière ou les matières qui sont nécessaires, opportunes pour la population congolaise, qu'on puisse d'abord mettre aux jachères cette loi qui risque je dirais qu'il risque de créer encore des problèmes.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Adrien. Vous rejoignez Maurice de Kinshasa qui parlait de la légalité de cette proposition et vous avez confirmé en vos termes propres donc la loi référendaire est prévue par la Constitution. Mais alors, le fait que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence politique, le fait de la qualité chaude qui tourne d'ailleurs autour du processus électoral avec comme point de chute l'alternance, alors il faut, selon vous, qu'on puisse faire asseoir donc cette loi au regard des enjeux de l'ère. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé. Clément, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Clément.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour, monsieur. C'est le directeur de la radio.
Vous avez la parole, Clément.
Ouais. Bon, j'ai suivi avec toute attention l'intervention du ministre Mende et surtout aussi les deux propositions de loi des honorables. Bon, sur le plan légal, les honorables ont raison parce que c'est leur droit. Il n'est pas dit que l'honorable ou bien il doit initier une loi peut-être avant la législative. Non, il peut ou n'est pas.
Donc à tout moment.
Sa proposition de loi, même à la fin de la législative. Mais le problème, c'est la prise au sérieux que le gouvernement est en train de prendre au sérieux cette proposition de loi. C'est-à-dire, il y a des matières à traiter à ce moment-ci. La loi peut être là comme le guide qui va nous aider au moment opportun pour faire encore le référendum. Mais il n'est pas urgent pour ce moment ici de prendre ça au sérieux, puisqu'il y a plusieurs propositions de loi que les honorables ont fait. Je peux citer les lois sur l'électricalisme, les lois sur l'homosexualité au Congo. Tout ça, on ne voit pas le gouvernement s'en charger sur ces propositions de loi. Mais il y a des lois qui visent leurs intérêts, qui partent vers leurs profits. Et vous trouvez que non, le gouvernement s'en charge et puis se charge plus pour la préoccupation de certaines lois. Pareil.
Oui, ça, mais nous avons. Oui,
nous ignorons. Mais la loi en soi n'a pas de problème. On encourage. Il faut qu'on puisse avoir des lois pareilles, puisque le référendum de 2005 a été organisé sans une loi
organisation.
Alors, c'est pourquoi cette fois-ci, la loi est bonne. C'est même le rôle, c'est le rôle du parlementaire de voter ou bien de proposer des lois.
Oui, mais
on ne veut pas que cette proposition de loi devienne alors urgent, que ça devienne alors un débat pour que le gouvernement puisse en profiter et homologuer encore leur mandat.
Oui, mais Clément, nous avons suivi les porte-parole du gouvernement qui a soutenu lors du point de presse jeudi dernier que le fait de disposer de cette loi ne signifie pas qu'on veut absolument organiser le référendum.
Bon, bien sûr, on a suivi ça, mais pourquoi il met ça d'actualité? C'est ça, quand on trouve que non, ça devient alors quelque chose d'actualité et qu'on convainc que non, vraiment, le gouvernement a plus d'intérêt de ça. Il y a plusieurs
matières
là-bas au Parlement. Ils ne sont pas jusque-là, qu'on ne prend pas au sérieux, et puis que le gouvernement même, les porte-parole, ne se met pas pour en discuter. Mais il n'y a que des lois, des propositions de loi qui visent leurs intérêts, que nous trouvons que non, là, les porte-parole s'en charge, et puis, pas vraiment parler
Merci beaucoup Clément d'avoir appelé de Kinshasa. Alors donc nous retenons que pour vous il y a des matières plus prioritaires à examiner au niveau de l'Assemblée nationale tout comme au niveau du Sénat que celles relatives à l'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Vous avez cité quelques-unes, notamment la loi sur la reddition des comptes, la loi portant protection des citoyens ou autres. Voilà, donc je crois que il y a ce qui est plus important que c'est là pour vous. Vous trouvez que ce n'est pas le moment parce que tout le monde regarde vers l'alternance. Merci beaucoup Clément. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, je vous écoute. Bonjour.
Vous avez la parole.
Merci bien. J'ai suivi les précédents Je crois que je pose la question, nous sommes dans quel état? Moi, je ne comprends plus rien. Lorsque on dit que la loi est nécessaire, c'est bien. Et on doit en avoir en permanence une loi référendaire. Est-ce que nous avons un budget permanent qui nous permet à tout moment d'organiser des élections, les référendums dans ce pays? Est-ce que nous avons ce budget? Où les députés qui sont là, ceux qui votent le budget, combien ils disponibilisent pour que la CENI, à tout moment, soit capable d'organiser des élections? Je vous donne un cas précis. Ici, hier, au Congo, au Bas-Congo, donc il y a eu le départ de l'honorable à l'Assemblée nationale. Il fallait organiser le gouvernement. Pour 29 députés électeurs, ils savent combien de temps, ils savent combien d'argent. Il fallait que ça fasse comme temps, comme énergie pour qu'on arrive à organiser cette élection. Où est passée la loi, la proposition d'un député qui est parti proposer la loi sur le statut du chef de l'État, élu après son mandat? Il y a beaucoup de matières qu'on peut réfléchir. Mais nous constatons qu'il y a des gens qui sont là en train de réfléchir, lire à temps et temps de temps la Constitution pour poser des lois où nous, on va nous prendre au sérieux alors que moi, financièrement, nous sommes nulle part. Donc je me dis, cette loi n'a de l'intérêt que lorsque les gens se retrouvent pensés que ceci va devenir, on va réviser, ils vont se maintenir et là, ils parlent de propres communautés comme des têtes, comme des imbéciles qui ne répondent pas. Je crois qu'ils ont le droit de réfléchir, de proposer, mais en tout cas, ce n'est pas pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est pour l'intérêt des individus. Ceux-là qui pensent que les autres ont étudié pour rester au pouvoir 100 ans comme on l'avait dit à Mobutu, et ils peuvent manipuler tous les esprits à tout moment. Cette loi est nécessaire, mais je crois que dans le contexte de sa conception, ça pose problème. Qu'on laisse la population, qu'il propose des lois, des textes et des couloirs pour chercher de l'argent, qu'on donne à la CENI tout l'argent nécessaire pour organiser des élections conformément à la loi, et cette loi peut venir bien après. Mmh. Je crois que c'est ce que moi je pense.
Merci beaucoup, Ernest, d'avoir appelé des Batsadi. Pour vous, vous évoquez les problèmes que traversent actuellement les budgets congolais. On n'a pas vraiment un budget conséquent qui pourrait faire face à toutes ces difficultés. Voilà, donc vous proposez qu'on puisse réellement, comme les autres l'ont dit, vos prédécesseurs, asseoir cette loi pour privilégier d'autres lois. Mais vous vous êtes posé la question où est passée la loi portant statut des anciens présidents. Je vous, pour votre gouverne, je crois que nous avons suivi la rentrée parlementaire. Au niveau du Sénat, cette loi a été inscrite, en tout cas l'examen de cette loi a été inscrit parmi les matières prioritaires à examiner au cours de cette session budgétaire. Voilà. Et donc pour vous, dans les contextes de la proposition de cette loi, donc ce n'est pas important. Merci beaucoup Ernest d'avoir appelé des Matadi. Roger, vous êtes à Bukavu. Bonjour Roger.
Bonjour Radio Capi, et merci pour cette émission combien éducative et pédagogique. Je pense que ça, la révision, une proposition pour la révision constitutionnelle, elle n'est pas opportune. En fait, je voudrais dire ça parce que c'est la réforme de plus ou moins à une consultation de la démocratie et à la volonté du peuple exprimée lors de marches qui se sont soldées par l'intendant descend à Kinshasa, à Goma et à Bukavu. On a compté plus de 40 morts à des gens qui ont dit non à la révision de la loi électorale. Donc si jamais on s'empresse à vouloir pousser coûte que coûte à arriver à une telle décision, c'est ni plus ni moins une confiscation de la démocratie. Et voilà les choses qui poussent le peuple à penser qu'il y a une suspicion d'une volonté d'épuisement. Ça nous renvoie en fait à la face B du livre des Kouchab, qui dit révision constitutionnelle ou la mission de la nation, c'est-à-dire en fait là, tous les ingrédients sont préparés pour que nous tendions vers un État non gouverné, un chaos si je puis dire ainsi. Et c'est là que c'est clairement par une rhétorique arrogante que qu'entretient certaines personnes qui entourent le chef de l'État, par Ricochet, sa famille politique, qui entretient un flou autour de tout ce que nous voulons faire. Quand je demande maintenant que ce gouvernement que Matata Ponyo dit qui a une croissance à deux chiffres manque de l'argent pour installer les nouvelles provinces récemment instituées, manque de l'argent pour organiser
les élections du gouverneur,
une élection de gouverneur,
manque de l'argent pour aider la commission électorale à organiser des élections et à respecter le calendrier, ou est-ce que ces gens vont trouver l'argent pour organiser un référendum? Et nous savons que tout est parti des tâtonnements. Ils ont commencé par parler direct canting, c'est-à-dire on va d'abord faire les recensements. Ils n'ont pas fait les recensements. Ils ont parlé non, on va organiser des élections municipales et locales. Au mois d'octobre, le 24 ou le 25, le 26, cela n'est pas en vue. Maintenant, c'est une nouvelle donne. C'est un flou qu'on veut entretenir pour avoir le peuple perdu. Et moi, je me dis, Radio-Catine, que nous devons être respectueux des fondamentaux de la démocratie. Le chef de l'État en premier, parce que c'est lui le garant de la Constitution, sa famille politique, son gouvernement, le Parlement et le Sénat vont suivre toutes les institutions d'appuyer la démocratie. Il faut éviter de prendre des décisions qui fâchent, qui énervent la Constitution. Il faut respecter la Constitution à la lettre. Ça nous dérange de trouver que chaque fois, avant des élections, il y a une tergiversation pour changer les cadres, pour créer une constitution taillée sur mesure. Je pense, monsieur, que toutes ces dévues politiques nous éloignent de la démocratie. D'ailleurs, là, on était en train de dire qu'on va nommer des commissaires généraux, des conseillers généraux, quelque chose comme ça, pour assister en lieu et place du gouverneur élu. Je me dis, mais c'est bonjour la structure. Pourquoi une loi, une révision comme ça va venir quand tout le monde est en train de se dire, nous allons tout ça.
Roger, juste une curiosité, parce que nous avons tous suivi l'actualité par rapport à cette thématique. Le ministre Lambert Mende au Malanga, des médias et porte-parole du gouvernement, a soutenu jeudi dernier dans son point de presse à Kinshasa que le fait de disposer de cette loi ne signifie pas qu'on peut absolument organiser les référendums. Alors aujourd'hui, quels sont selon vous les signes qui prouvent à suffisance que le gouvernement est en train de s'organiser? C'est une volonté de la part du pouvoir de modifier la constitution par voie référendaire.
Je pense que, encore lui, l'an dernier, il nous a dit, c'est toujours de là que toute cette suspicion découle. Le président de la République, dans sa ferme de Kinshasa, devant ses 315 députés et 47 sénateurs, va dire: si les élections se passaient demain, nous allons les gagner. Nous allons les gagner qui? Le peuple, lui, président de la République, sa famille politique, quoi? Voilà là qui montre que on ne veut pas suivre demain. Qu'est-ce qui prépare ces élections pour que ça se passe demain? En fait, demain, je parle de demain, pas dire dans un futur proche, mais demain. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les élections se passent demain? Qu'est-ce qui est fait par rapport aux politiques pour montrer que le peuple était prêt à voter demain? Quels sont les signes? Un calendrier a été fait par la CENI, et ce calendrier est vraiment un entretien de confusion impossible. Parce que tout ce que ce calendrier a prévu, rien n'est fait. Le fichier électoral, l'enrôlement des jeunes majeurs, des nouveaux majeurs, passé. Le fichier électoral, elle nous dit, passé. Les élections prévues dans deux semaines, pas en vue. Rien n'est fait. Et on s'est dit, à quelle sauce on veut nous manger. Et là, les gens se disent, ceux qui sont au pouvoir s'approchent, parce que le pouvoir pour eux est une mangeoire, et ils voudraient que l'on fasse ainsi. On a vu deux régimes, en fait. Nous avons déjà vécu des choses comme ça dans ce pays, où des gens comme Mobutu, qui nous ont géré pendant plus de 32 ans de dictature sans nom, nous ont montré des choses comme ça.
Voilà, malgré
des élections.
Merci beaucoup Roger, d'avoir appelé des Bukavu. On va prendre Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour. Arsène, vous êtes avec nous, Arsène?
Oui, je suis avec vous.
Allez-y, Arsène.
Ok, moi je suivais un peu ces histoires. Mais je me dis ceci: quand on est habitué à mentir, à tromper, vous savez que à chaque instant que vous dites quelque chose, tout le monde se dit, mais pour cette fois-ci, il va dire la vérité ou bien il est encore en train de mentir. Je crois que cette histoire de référendum populaire, est-ce qu'il y a une nécessité? C'est ça la grande question, est-ce qu'il y a une nécessité? Oui, d'accord. On va élaborer une loi, on va faire ceci, on va faire cela, il n'y a pas d'opportunité. Mais quelle est la chose la plus importante que nous avons ici, tout présent, à réaliser que les députés doivent faire? C'est ça la grande question. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple dupe. Le peuple congolais n'est pas ce qu'on peut dire un peuple marginalisé intellectuellement. Non. Ils doivent se rendre compte que s'il y a 50 professeurs dans l'hémicycle, dites-vous qu'il y a 5000 à l'extérieur. Donc, on vous suit à la lettre, phrase par phrase. Et il faut être présent. Vous risquez de vous faire ridiculiser parce que vous n'avez pas prononcé une bonne phrase à la place qu'il fallait. Nous sommes en train de suivre l'actualité.
Oui, Arsène. Oui. Est-ce que ce n'est pas là un procès d'intention? Parce que les porte-parole du gouvernement l'a si bien dit, le fait de proposer, je crois que c'est le droit le plus légitime de tout citoyen congolais de proposer une loi, le fait de proposer une loi ne signifie pas qu'on veut absolument aller au référendum.
Ok, merci beaucoup pour la question. Procès d'intention. Pourquoi c'est le mot qui revient? Qu'est-ce qu'on constate? C'est ça la chose, la plus grande chose, c'est ce qu'on constate. On constate que ça ne marche pas. On constate qu'on est en train de bugler à tout moment. On constate qu'on est en train de mentir à tout moment. Nous voulons les élections. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Allons vers les élections, on verra. J'ai suivi aussi la réunion de Kingakati, quelques extraits. Le président dit, à ce moment, il n'y a personne qui va me battre ainsi de suite. Moi, je le dis, si aujourd'hui, on organise les élections à Kikwito et qu'après un candidat, je parle le président de la République avec la
République. Non, on n'est pas encore en pleine campagne. Bon, je crois que la scène, le moment venu, vous pouvez battre votre campagne et chercher à conquérir le pouvoir. C'est votre droit.
C'est un exemple que tout le monde a droit de faire.
Allez-y.
Donc, à partir de là, je peux dire ceci, que revenons aux choses les plus importantes. Laissons les distractions inutiles. Ça vaudrait mieux pour tout le monde, pour toute la République, pour l'intérêt de la République. Voilà ce que j'avais dit.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échange citoyens. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios l'honorable Lucas Kasongo, Mwadi Avita, cadre du PPRD et l'un des initiateurs de ce projet portant organisation du référendum. Bonjour honorable.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors vous avez suivi les auditeurs, c'est vrai, lorsque vous avez fait votre entrée dans ce studio, vous avez trouvé Arsène en ligne en train de développer au fait sa réflexion, et il y a d'autres qui ont parlé avant, mais tous sont d'accord que la proposition de loi rentre dans le cadre légal parce que la constitution ou les constituants donnent le droit à tout citoyen de faire des propositions de ces genres pour arriver à bien organiser les référendums, même dans les jours à venir. Mais le moment ne s'y prête pas, en tout cas à croire la réflexion des uns et des autres, le moment ne s'y prête pas, parce qu'en ce moment, tout le monde fixe son attention sur l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire la fin du processus électoral.
Merci, monsieur le journaliste. Nous saluons tous les auditeurs de la Radio Capi. Et j'ai suivi avec intérêt les interventions des auditeurs. Et tous les auditeurs ont reconnu que notre proposition est constitutionnelle. Ils ont fustigé d'une opportunité et ils se focalisent sur les élections. C'est d'une manière générale les idées maîtresses des interventions. Je voulais apaiser les esprits de ces intervenants et par ricochet de toute la population congolaise que nous devons faire la part des choses. Les élections n'est pas égale au référendum. Les élections sont réglementées par une loi de procédure que nous appelons la loi électorale. C'est cette loi qu'on doit utiliser pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Le référendum sera utilisé pour régler d'autres questions qui sont prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et moi, je me demande comment on veut faire du méli-mélo. On entretient la confusion. On pense que parler du référendum, c'est de ne pas organiser les élections alors que nous avons affaire à des aspects différents, à des sujets différents, à deux matières différentes. Et j'avais, la semaine passée, quand il y avait encore des agitations dans la classe politique, et surtout du côté de l'opposition, j'avais émis le vœu de faire un débat démocratique face à face avec quiconque pour me défier que ma proposition de loi est inopportune. Malheureusement, ce qui avait tenu de point de presse et après les explications données, s'était retrouvé fautif et il n'avait pas accepté de se retrouver en face dans les médias pour donner les éclaircissements. Et je voulais revenir un peu aux mobiles qui nous ont poussé à éviter ou à proposer cette loi. Le premier élément, le législateur n'agit pas de lui-même. Il agit sur base d'un document, et c'est ce document que nous appelons la Constitution de la République. C'est ça l'arme d'un député, c'est ça la Bible d'un député. Et c'est la Constitution de la République qui donne le pouvoir à un député d'initier une proposition de loi, et cette initiative doit rencontrer la volonté du constituant pour dire doit être prévue par les constituants ou la Constitution elle-même. C'est ce que nous avons fait. Donc, c'est l'article 5 de la Constitution, à son alinéa 3, qui donne au Parlement le pouvoir de prendre une loi référendaire au même titre que la loi électorale. La loi référendaire, c'est une simple loi de procédure. Ce n'est pas l'organisation du référendum proprement dit. Ici, nous voulons mettre à la disposition de la République un cadre permanent, une loi permanente qui sera utilisée au moment venu. Toutes les fois qu'on aura besoin d'organiser le référendum, on va utiliser cette procédure parce que la loi n'existe pas toujours. Et les matières pour organiser le référendum sont déterminées également par la Constitution. Nous avons l'article 2 de la Constitution qui parle de la capitale. Pour transférer la capitale de la République de la ville de Kinshasa à tout autre endroit de la République, il faut demander la population congolaise. Nous avons l'article 214 qui parle de la cession, qui parle de l'échange ou de la jonction de territoire. Et cette matière également demande l'aval de la population du peuple congolais. Et nous avons le dernier article, c'est l'article 218, qui parle de la révision constitutionnelle. Et le dernier cas, le référendum peut être utilisé pour tout autre cas qui n'est pas prévu par les lois de la République, que ce soit par la Constitution. Il y a un problème qui se pose, ce problème n'est pas résolu par la Constitution, le problème n'est pas résolu par les lois de la République. Pour résoudre le problème qui se pose, le problème pour la bonne marche de la République, pour l'intérêt du peuple congolais, on peut également recourir au référendum. Et il y a la confusion. Les gens pensent que si on a une loi de procédure pour organiser le référendum, c'est cette loi qui doit organiser les élections, qui doit interdire à la CENI d'organiser les élections. Nous disons non. Les attributions sont réparties par la Constitution. La Constitution a établi le matière dévolue à chaque institution de la République, et le législateur que nous sommes, nous n'avons pas le pouvoir d'organiser les élections comme puisse en faire du méli-mélo. Et nous, c'était la démarche que nous avons entreprise, c'est une démarche noble pour combler le vide remarqué en République démocratique du Congo. Ils ont parlé de l'opportunité. Je voulais illustrer ça par quelques exemples. Et ceux qui suivent l'actualité, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, sont sans ignorer qu'il y a une demande formulée à la République démocratique du Congo de céder l'eau de la rivière Ubangi pour alimenter les lacs Tchad. Et en droit, les eaux font partie du territoire national. Cette demande est déjà formulée et la République démocratique du Congo ne pourra pas se prononcer parce que la loi ne reconnaît pas aux dirigeants le pouvoir de se prononcer à la place de la population congolaise. Et je ne sais pas, dans ces cas-là, que devons-nous faire parce que la demande est formulée pour donner une réponse quelconque à cette demande. Il faut poser la question au peuple congolais. Ça, c'est le premier cas de figure qui nous pousse à dire qu'il y a de l'opportunité. Et en 2013, fin 2013, début 2014, vous étiez tous informés de la mise en application de l'article 2 qui prévoit 26 provinces à la place des 11 provinces aujourd'hui. Le découpage a entraîné des tollés dans certaines provinces. Il y a dans des provinces où le découpage n'était pas accepté, et dans ces provinces, les pétitions sont des assignés. Ils attendaient la mise en application de cet article pour initier maintenant la pétition ou déposer la pétition pour demander la reconstitution de certaines provinces. Donc la réunification des provinces qui ont été demandées. Moi, je suis un élu du Katanga. Dans ma province, il y a des tendances. Il y a ceux qui étaient pour le découpage. Il y a ceux qui étaient contre le découpage. Ceux qui étaient contre le découpage ont déjà initié une pétition. Et il faut attendre que la pétition soit déposée au Parlement pour réfléchir, parce que ça sera l'article 2 qui doit être touché. Si nous avons 26 provinces, on veut nous retourner à 20 provinces ou à 17 provinces, l'article 2 de la Constitution va être révisé. Faudra-t-il que la révision soit opérée par le Congrès, ou faudra-t-il que le peuple congolais, qui est le souverain primaire, qui a le pouvoir, parce que la démocratie elle-même est définie comme le pouvoir au peuple, pas le peuple pour le peuple. C'est la population qui doit devoir s'exprimer. Et comment nous, qui parlons au nom de la population, nous avons peur
que la population se prononce.
La population elle-même pour qu'elle puisse se prononcer. Il n'y a pas que ça. Vous savez, en 2013, on a organisé les concertations nationales. Lors de ces concertations nationales, on avait invité toutes les couches de la population. Parmi les couches invitées, il y avait nos frères et sœurs de la diaspora. Et parmi les revendications formulées par nos frères de la diaspora, il y avait le problème de l'article 10 de la Constitution qui prévoit la nationalité congolaise une et exclusive. Et ses compatriotes ont émis le vœu de revoir cette disposition qui est devenue discriminatoire à leur endroit. Ils sont allés ailleurs, chez autrui, pour protéger certains intérêts. Ils étaient obligés d'accueillir la nationalité étrangère. Celui qui a donné le papier doit maintenant primer que celui qui a donné le sang. Parce que quand on est congolais parce qu'on a le sang congolais, on n'est pas congolais parce qu'on a un papier congolais. C'est ce sang-là, ces compatriotes.
Voilà. C'est vrai, je crois que vous avez bien brossé le tableau. On va repasser de l'autre côté du standard, parce que les auditeurs sont nombreux, hein, qui veulent un peu réagir par rapport à ça. Nous retenons que, pour vous, les référendums, c'est une procédure normale dans la démocratie, et même la définition de Larousse va dans le sens là, que les référendums est un procédé de démocratie semi-directe, par lequel l'ensemble des citoyens d'un territoire donné est appelé à exprimer une position sur une proposition qui leur est soumise concernant une mesure qu'une autre autorité a prise ou a envisagé de prendre. Alors, pour le cas des fêtes, vous avez évoqué les trois cas dans lesquels qui peuvent. Vous avez évoqué l'article 5, l'article 2 et l'article 218. Alors, le 214 aussi. Alors, avec l'article 218 sur la révision constitutionnelle, c'est ça le débat qui fâche aujourd'hui, parce que la population ne veut pas entendre parler de la révision constitutionnelle. Le fait de proposer cette loi, on a du coup l'impression qu'on va directement vers la révision constitutionnelle. Mais on va d'abord rouvrir les standards pour accueillir également le point de vue des auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre. Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Colésie, bonjour.
Bonjour hier, bonjour l'honorable sur le plateau. Je voudrais dire ceci, avant de passionner le débat, nous sommes vraiment en plein pied dans un jeu démocratique très approfondi. Malheureusement, le climat dans lequel nous travaillons, c'est la suspicion mutuelle entre l'opposition et la majorité. Il est vrai, sans qu'on déplace, c'est que la loi, le projet de loi tel qu'il est conçu, n'a pas de problème. Hein. Mais l'opposition, lorsqu'elle s'alarme, elle a le mérite de faire cela, du fait qu'elle est en train d'alerter la population et toute l'opinion sur toute éventualité. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a pris trop de temps. La législature ici est en train de tendre vers la fin de le mandat. Les députés ici n'ont pas eu l'initiative qu'ils ont maintenant. Vous allez comprendre qu'on est en train de se laisser partout, de chercher tout ce qui est resté. C'est comme si je dirais que tous ceux-là qui vont venir, qui sont de la majorité ou de l'opposition, n'auront rien à faire. Alors, malgré le retard, on veut tout faire, alors tout pour réaliser déjà le terrain. Donc la suspicion est valable. Parce que les députés devant nous ici ne va pas nous faire croire que c'est parce qu'il y a eu demande des eaux congolaises, qu'il y a eu cette initiative. Vous allez comprendre que ces éléments, ils les avancent comme des exemples simplement. Mais la réalité est telle que par rapport au souci de la conservation du pouvoir, on est en train de préparer le terrain pour toute éventualité. Voilà à peu près ce que je voudrais dire. Mais je rappelle aussi à la majorité, c'est qu'elle doit savoir que la ténacité même, la médiatisation de ce projet de loi est en train de montrer, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose que l'on est en train d'envisager. Et moi, je leur dis, ça c'est mon même impression que je donne, l'histoire risque de le rattraper si jamais ils arrivaient un jour à recourir à ce qui sera déjà une loi référendaire. Voilà ce que.
Alors, professeur Ilias, vous avez suivi vos prédécesseurs. Les uns ont insisté sur l'opportunité de cette loi à ces jours, en tout cas pour plus d'un parmi eux. Il n'y a pas d'opportunité, d'autant plus qu'il y a des matières plus prioritaires à examiner au niveau du Parlement, donc de deux chambres ensemble.
Effectivement, la priorité, l'opportunité, elle est douteuse. C'est ce qui crée d'ailleurs des suspicions. La population a des sérieux problèmes. Il y a les fonctionnaires, il y a les enseignants, il y a les infrastructures, tout cela. Il y a trop de problèmes. On pouvait initier des projets de loi dans ce sens. Malheureusement, tout est en train de s'attacher beaucoup plus à ce qui est élection. Voilà le danger.
Merci beaucoup, professeur Ilias Ndala, d'avoir appelé de Colosie. Maître Laurent, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, maître Laurent.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, maître Laurent. Vous avez suivi les auditeurs qui vous ont précédé. Et quel est votre point de vue? Parce que dans la plupart des cas, ils ont insisté sur la position légale de cette proposition, hein, les caractères légaux de cette proposition, mais néanmoins, ils ont évoqué quelques cas de suspicion qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, la population ne les croit plus. En fait, il n'attend que qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Donc tout ça, c'est permettre dans le compte de la volonté du pouvoir de vouloir modifier encore d'amener les gens à absolument organiser les
référendums. Oui. Bon, voilà. Moi, j'aimerais dire ceci. D'abord, je salue l'honorable qui est là, parce que c'est un élu. Mais si vous êtes un élu, vous devez comprendre quelle est la volonté de mes électeurs. Parce que c'est tout à fait anormal que chaque fois que la population se fâche par rapport à une situation de texte de loi. Nous avions déjà dit, imaginez-vous en 2011, lorsque on a changé de deux tours à un seul tour, qu'est-ce que les députés ont fait? Ils ont ajouté aussi leur bonus à eux en disant, c'est l'article 110 de la Constitution, que le titre c'est de la fin et de la suspension du mandat des députés nationaux ou des sénateurs. Ils ont ajouté encore en disant que lorsque le député est nommé à des fonctions politiques, son mandat est suspendu au niveau du Parlement, mais il revient de plein droit lorsque le mandat politique prend fin. C'est une manière pour eux de continuer à pérenniser le pouvoir et justifier même leurs suppléants.
Vous comprenez que ça fâche toujours. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas aussi élégant. Et nous disons, le texte tel qu'il a, il propose là, c'est vrai. C'est dans les normes de la loi. Mais je vous dis, c'est juste pour chercher à créer une situation qui doit se conformer à ce texte-là, des lois de référendum, sur les référendums, pour qu'il pose une situation et que cela soit conforme à cette loi pour passer à un référendum. Hein? Et c'est ce que nous disons, que la majorité se calme parce qu'ils sont en train de poser des actes qui lui-même à l'avenir de l'honneur du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Parce qu'un conseil, les gens croient toujours que c'est le chef de l'État. Alors c'est peut-être ces gens-mêmes qui cherchent à avoir confiance auprès du chef et ils font des choses et cela, ça retombe encore pour préjudicier l'honneur du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Ils doivent cesser avec ça, s'il vous plaît. Il peut retirer tout simplement son projet de loi. Il n'est pas encore là. Parce que s'il ça va passer, ça ne passera pas 3 mois. Ils vont créer une situation qui se conforme à ces textes de loi-là pour passer au référendum.
Alors, c'est pas normal. Mais c'est Laurent, il y a tout à l'heure un auditeur qui a insisté pour dire finalement ce qui étonne plus d'un, la promptitude avec laquelle le gouvernement s'est saisi de cette affaire et comme si ça constituait une opportunité. Et c'est là où maintenant beaucoup de gens se posent pas mal de questions sur et l'opportunité de cette loi et l'intérêt que le gouvernement avait tiré rapidement de cette loi.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose que je présume qui se prépare pour que ça soit conforme à la loi. Ils savent que lorsque la loi la passe, nous on peut créer telle situation et on dit on passe au référendum parce que la loi sur le référendum prévoit cela.
Merci beaucoup.
Mais c'est ça aussi, même le gouvernement s'empresse pour faire cela. Nous disons, hein, même les gens du G7, mais est-ce qu'ils se sont exclus? Non. Ils ont fait cette même proposition à l'autorité morale pour montrer que non, nous devons gagner la confiance de la population, qu'on ne fasse pas ça. Mais qu'est-ce que ça leur a coûté? C'était leur exclusion, mais eux-mêmes ne se sont pas prononcés pour être exclus, mais ils ont tout simplement été exclus par ceux qui sont au sein de la majorité. Et nous disons qu'ils aient l'amour, qu'ils aient la compréhension de la population et le bon sens pour qu'un jour, qu'ils bénéficient encore de la confiance de la population. Parce qu'on en a marre et nous disons qu'ils doivent cesser et revenir au bon sens pour le bien de la République.
Merci beaucoup, Maître Laurent, d'avoir appelé de Kinshasa. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, partout où vous nous suivez à travers le pays ou encore à l'étranger, composez les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel @radiocapi.net.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Honorable Lika Kasongo Mwadiavita, cadre du PPRD, initiateur de ce projet de loi, vous venez de suivre cette longue deuxième série des auditeurs. Alors, comment vous réagissez?
Merci, monsieur le journaliste. J'ai suivi le professeur Yassindala, qui a appelé à partir d'écologie. Le professeur
Maître Laurent, voilà, il y a Maître Laurent qui a parlé également.
Maître Laurent à partir de la ville de Kinshasa.
Oui, et puis Arsène de Kikwit.
Ça, c'était avant, j'ai déjà
dit. Oui, tout à fait.
Il y a Maître Roland et le professeur Ndala. Oui, je voulais commencer par les préoccupations du professeur Ndala. Le professeur Ndala parle du retard dans la prise de cette initiative. Et la Constitution de la République et les lois qui nous régissent ne donnent pas un timing pour prendre une initiative. Et du début à la fin de la Constitution, du début à la fin du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ou le loi de la République, nulle part où on fait allusion au timing. Et le député agit sur base de texte, il n'agit pas comme n'importe qui. Et dans une matière, pour agir dans une matière, il faut que cette matière puisse avoir son fondement constitutionnel. Le législateur ou le constituant de 2006 va dire qu'il faut une loi sur cette matière pour que le législateur puisse agir. Au cas où le législateur agirait en dehors du cadre constitutionnel, son initiative sera irrécevable au niveau du Parlement. Ça ne sera même pas soumis au débat. Ça sera d'emblée non reçu parce que la matière ne correspond pas avec la volonté du législateur. Et le professeur parle de matière prioritaire. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas une liste qui établit les matières selon les priorités. Il n'y en a pas.
Juste une curiosité. Entre, par exemple, la loi de reddition sur la reddition des comptes, la loi portant pour fonctionnement de la Cour des comptes, et la loi portant organisation des référendums, pour vous, en tant que député, sincèrement, qu'est-ce qui est important?
Merci. Nous sommes pendant une session
budgétaire.
Mmh. Et cette session prévoit que le budget de l'État soit examiné et adopté au cours de cette session. Et c'est ça, c'est l'unique matière constitutionnelle.
Mais il y a des matières qui sont restées en souffrance aussi depuis la session extraordinaire de mois d'avril, qui était prévue même lors de... Nous avons reçu beaucoup de députés ici qui ont même fustigé ces cas. Beaucoup de matières qu'on propose et pour examen, mais qui, en fait, à la fin de la session, ne sont pas traitées, qu'on renvoie à la session prochaine. Mais voilà que vous venez avec une nouvelle proposition qui vient s'ajouter à d'autres qui existaient.
Je voulais porter à la connaissance du public que c'est ça la confusion qu'on est en train d'entretenir. On a remis à chaque député de l'opposition ou de la majorité les calendriers de matière prévus pour cette session. Si bien que le calendrier est ouvert, mais on a déjà adopté ce calendrier avec le matière déterminée. Et s'il y a une matière urgente, on va encore soumettre la question à la plénière qui doit se prononcer pour l'ajout. Mais la proposition de loi qui fait déposer aujourd'hui n'est même pas encore inscrite au calendrier de la session. Elle est en train de suivre le cours normal. Je voulais peut-être donner la procédure législative pour aider l'opinion à comprendre ce qui se passe. Quand un député prend l'initiative d'une proposition de loi, et l'initiative d'une loi, il la dépose au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau est représenté par le chef de l'institution qui est le président de l'Assemblée nationale. Et le président transmet la proposition au vice-premier président qui est chargé des questions législatives du Parlement. Le premier vice-président, à son tour, transmet la matière ou la proposition de loi à un organe technique du Parlement que nous appelons le bureau d'études. Le bureau d'études fait la première analyse ou le premier examen de la proposition de loi. Mmh. Et l'analyse du bureau d'études se focalise sur deux éléments. Il y a d'abord l'assise constitutionnelle et le fondement ou le fond de la matière. Lorsque ces deux conditions sont réunies, on dit que la procédure pour élaborer la loi ou la proposition a été respectée, et on a déposé, comme prévu par le règlement intérieur, on demande même que la matière soit d'abord ou la proposition soit reçue par la plénière ou le bureau. Après cet examen, on voit maintenant le fond. Est-ce que la matière prévue par la Constitution correspond avec la proposition de loi initiée par le député? Et le bureau d'études fait des observations importantes pour l'amélioration. Et ça se fait entre le Parlement et le député initiateur de la proposition de loi. Mmh. C'est ce qui avait été fait. J'ai déposé la première version au mois de mai. Au mois de mai.
Mmh.
C'était la version initiale.
Mmh.
Au mois de juin, j'ai été appelé par le bureau d'études. Après avoir examiné la proposition, on a échangé sur les zones d'ombre qui existaient. Le bureau d'études avait formulé des recommandations et des observations importantes, et parmi lesquelles certaines observations nous ont aidés à améliorer la rédaction de cette proposition de loi. Et nous avons réédigé la proposition en intégrant les observations du bureau d'études, qui est l'organe technique de l'Assemblée nationale. Et le bureau d'études a réexaminé la version réécrite pour voir si les observations...
C'est conforme par rapport aux observations.
Aux observations formulées par le bureau d'études. Ce qui avait été fait. Après, le bureau d'études a donné l'avis favorable pour le dépôt au grand bureau de la version réécrite. Et c'est ce qui avait été fait. Après le dépôt de la version réécrite...
Et l'avis favorable, vous l'avez obtenu au mois de juin?
Oui, au mois de juin.
Au mois de juin.
Au mois de juin. Et j'ai redéposé la version corrigée au bureau. Et le bureau ne doit pas seulement se contenter des observations faites par le bureau d'études. Le bureau a également les services attachés à leur cabinet pour y jeter un coup d'œil, voir si la loi peut être transmise au gouvernement. Après cet examen, j'ai déposé la dernière version le 30 juillet, avant la clôture de la session extraordinaire des juin. Le 30 juillet, j'ai déposé la version réécrite. Et de juillet à septembre, le bureau de l'Assemblée nationale a fait son travail. On s'est rendu compte que la version qu'on a réédigée était potable et on l'a transmise au gouvernement. Et là aussi, il y a un problème. L'article 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale demande, lorsque l'initiative vient du Parlement, le Parlement est dans l'obligation d'en informer le gouvernement. Et le gouvernement, une fois informé pour faire les observations, parce que c'est la loi de la République, toutes les institutions qui sont concernées par l'application de la loi.
Sont exécutées par
le gouvernement. Le gouvernement doit être informé et donner ses avis, ses considérations pour que.
C'est ce qui est fait. Vous avez suivi cette démarche, vous avez déposé, le Parlement a déposé.
Et on a transmis, c'était le 21 septembre. Dès la réception de la proposition de loi, le gouvernement dispose que de 15 jours. En dehors de ces 15 jours, pour dépasser ces 15 jours, les observations du gouvernement tombent caduques.
Voilà, alors honorable Lucas, on va revenir à ça, tout en rappelant d'abord à tous les auditeurs qui veulent bien participer à cette émission. Nous parlons de cette proposition de loi portant organisation du référendum en RDC avec honorable Lucas. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315 pour votre participation en direct. Vous avez la parole, Bintou.
Ok, merci beaucoup, JR. Bon, oui, merci beaucoup. Je voudrais juste poser des petites questions à l'honorable qui est sur le plateau. Quelle est sa motivation cachée sur la loi référendaire? Si le régime saute l'occasion pour organiser le référendum afin de modifier la Constitution, quelle peut être sa réaction? Est-il prêt d'assumer les conséquences qui vont découler de sa loi référendaire?
Voilà, merci beaucoup.
Ce que la population attend de l'entourage du chef de l'État, et particulièrement de ceux qui peuvent faire bien, c'est d'aider le chef de l'État à terminer son mandat de manière pacifique et de passer la main. Faire le contraire, ce n'est pas aider le chef de l'État. Et la dernière question que je voudrais poser à notre invité, le président a demandé à son entourage et aux membres du chef de tout le monde qui était là-bas à Singapour. S'il les avait dit de faire ce qu'ils sont en train de faire, quelle est la réponse de l'AMP? Puisque lui est de l'AMP du PPRD, il est bien placé pour vous donner la réponse. Quelle est la réponse qu'ils ont réservée au président de la République? Lui a-t-il déjà fait ce que la population, puisqu'il a été élu dans une circonscription électorale? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour cette circonscription électorale? Et c'est seulement la loi référendaire qu'il trouve très importante aujourd'hui, pendant que la population attend la présence pacifique.
Voilà, merci beaucoup, Bintou, d'avoir appelé l'équipe PC. Nous prenons Michel qui est à Lubumbashi. Michel, bonjour. Michel, vous êtes avec nous? Michel, vous êtes avec nous? Allô, Michel? Voilà, nous prenons plutôt. On va prendre Dr Kandé qui est à Kisangani. Dr Kandé, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, JR. Bonjour, Radio Capri. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Vous avez la parole, Dr Kandé.
Ok, JR. Je salue l'honorable. D'emblée, je voudrais d'abord le féliciter pour cette lucidité d'esprit d'avoir trouvé que nous manquions un cadre d'une loi référendaire. C'est bien. Mais je voudrais poser une question à l'honorable. Lui, il est député national. Il est le représentant de la population. Et il est en train de suivre tout ce que la population est en train de lui dire. Est-ce qu'il n'aurait pas le courage, en tant que représentant de cette population, et cette population qui l'a mandaté, que cette population est en train de refuser ce projet de loi maintenant? Est-ce qu'il peut prendre le courage de surseoir à ça? Parce que ça donne trop de bruit et c'est tout pendant ce temps où nous assistons à beaucoup, beaucoup de difficultés sur le plan de gestion. Nous avons les provinces qui sont démembrées, qui ne fonctionnent pas. Nous avons des choses qui se passent dans le pays qui ne marchent pas. Sur le plan de commissaire, c'est ce qu'on va nommer. Donc, beaucoup de débats. Est-ce qu'il peut retirer son projet de loi? Si vraiment il a écouté la population.
Voilà, merci beaucoup, Dr Kandé, honorable Aliquin.
Merci, M. le journaliste. J'ai suivi les questions posées par les auditeurs. Il y a M. Bintou et le Dr Michel, le Dr Kandé.
Et aussi rappeler la procédure, parce qu'on était au niveau du gouvernement. Le gouvernement on a pu transmettre la loi au niveau du gouvernement. C'était juste seulement au mois de septembre ici.
Oui. Quand on transmet la proposition au gouvernement, le gouvernement ne dispose que de 15 jours pour réagir. Et la proposition n'est pas directement adressée au ministre quelconque. La proposition est adressée ou la lettre de la communication est faite entre institutions. Donc, on s'adresse au premier ministre. C'est lui qui doit répercuter l'information au ministre concerné par les secteurs de la proposition de loi. C'est ce qui avait été fait. Et le premier ministre, dans sa lettre, a rappelé au premier vice-ministre de l'Intérieur que le délai que nous avons est de 15 jours. Il faut travailler en tenant compte de ce délai et me permettre également de jeter un coup d'œil. Et parce que c'est le premier ministre qui engage le gouvernement.
Mais ça s'est passé vite pour le gouvernement. Le gouvernement a déjà pu faire des observations par rapport à cette loi.
Je ne suis pas encore informé jusqu'à là, parce que c'est pas d'institution en institution.
Mmh.
Oui. Et je voulais aussi faire allusion à l'intervenant avant Bintou, qui voulait savoir si je reçois, si je suis les électeurs qui ont voté pour moi, ou m'ont demandé de retirer ma proposition de loi. Je suis élu dans une circonscription donnée. Et je suis élu de Kamina dans la nouvelle province du Haut-Lomami. Si cet auditeur peut se rendre compte, il doit, parce que nous avons nos frères, nos
amis. Oui, je crois que nos amis de Kalemi suivent. Je crois que même pendant de Kamina, avant la fin de l'émission, peut-être un d'eux pourrait appeler. Bon, voilà.
Je reçois chaque jour les félicitations parce qu'il y a un vide, on voulait combler ce vide. Et rédiger une loi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je réponds à la première question de la motivation, Achille. Moi, j'ai dit, du début à la fin, si vous exploitez la proposition de loi, aucun article n'est suspect. Aucun article n'est dangereux. Aucun article a un agenda caché. L'objectif poursuivi, c'est de combler le vide remarqué dans notre arsenal juridique. Nous sommes un État, nous ne devons pas être un État d'exception. Partout ailleurs, là où on a prévu le référendum, il y a une loi référendaire qui existe de manière permanente. Et dans notre pays, nous n'en avons pas. Et c'est ça le premier mobile qui m'a poussé à initier cette loi. C'est la Constitution qui a voulu que nous puissions avoir la loi référendaire. Et le moment n'est pas indiqué pour dire qu'il y a qu'à cette période où on peut prendre une initiative de loi. Et le champ est ouvert. Le député a le mandat de 5 ans. Pendant les 5 ans, il a le pouvoir de prendre n'importe quelle initiative. Pour ou contre la révision de la Constitution. C'est la question que Bintou m'a posée. La révision de la Constitution est interprétée très mal. Si le constituant de 2006 lui-même a prévu une disposition pour réviser la Constitution, la Constitution est l'œuvre humaine qui n'échappe pas à l'imperfection, si les réalités de 2006 sont les mêmes, il n'y aura pas intérêt de changer la constitution. Mais si les réalités...
Parce que nous sommes dans une société dynamique.
Dynamique. Mmh. Et on évolue chaque jour. La société évolue chaque jour. La société change chaque jour. S'il y a le besoin d'organiser la révision de la constitution.
Mais il y a des articles verrouillés. Ça, c'est le constituant et à penser.
Voilà.
Voilà. Donc, on peut réviser tous les autres articles, mais pas les 220, pas. Voilà, il y a quelques-uns qu'on a dû verrouiller.
En 2011, il y a la révision qui est intervenue. Est-ce que c'était sur base d'une loi référendaire?
Non.
Et comment les gens s'agissent, ce sont deux matières différentes.
Voilà, on va prendre quand même, il y a John Kinzabour, qui est également votre, c'est aussi un honorable député national. Honorable John, vous êtes avec nous? Honorable John, vous êtes avec nous?
Peut-être oui,
voilà. Monsieur à l'écoute. Non, honorable John. Honorable John, voilà. Vous nous avez rejoint par rapport à ces débats. Quelle est votre contribution?
Monsieur, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir mis en amont ces débats sur la place publique à travers Radio Capi, qui est suivie dans le monde entier et qui est une radio très prisée de toute la population congolaise. C'est une très bonne chose. Là, je m'adresse à mon collègue qui défend son projet de loi. Je salue son intelligence, mais en tant qu'élu comme moi, je voudrais lui donner un conseil. Vous savez, depuis que j'ai suivi votre émission, les collègues témoins, personne n'appuie son initiative. Je pense que par le temps qui court, notre pays a besoin d'autres choses plus que ça, d'autres lois plus que cela. Nous allons droit vers les élections où le pays va connaître un nouveau déploiement des gestionnaires à travers les élections. Et je pense que c'est très mal indiqué à travers toutes ces suspicions que nous connaissons, à travers tout ce que nous vivons sur notre scène politique, que les collègues maintiennent son projet de loi. Mais je voudrais qu'ils fassent sienne la recommandation du docteur Kande, qui a appelé des journalistes. J'ai fait lien la position de M. Bintou. Et j'ai suivi pour que, purement et simplement, pour l'instant, le collègue retire son projet de loi. Mm-hmm. Pas parce que ce n'est pas pertinent, M. Gier, mais parce que ce n'est pas opportun. Ça nourrit des suspicions, ça crée, je dirais même des tensions. Au stade actuel, vous voyez que vous en discutez en amont, mais les collègues savent très bien que si ce projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, où moi je siège avec lui, il n'y aura que la majorité qui va voter ça. Et ce sera une bonne chose. Parce que l'opposition et les fondateurs voilà. Qu'ils appellent les G7, je ne sais pas, ils ne vont pas voter pour ce projet de loi.
Merci beaucoup.
Il le fait en amont. Donc il faudrait qu'il le retire aussi en amont et puis il le fait pas un coup.
Voilà, honorable, si vous le permettez, parce qu'on a pris assez de temps, il nous reste juste 3 minutes pour que nous puissions conclure cette émission. Honorable, merci d'avoir contribué dans cet échange citoyen. On va prendre le dernier auditeur, Maître Willy, qui est à Gungu, dans le Bandundu. Maître Willy, vous n'avez qu'une minute. Maître Willy, bonjour.
Oui, bonjour, Gérard. Je salue tous les intervenants et je salue tous les auditeurs, surtout les victimes de la tentative de toutes ces manœuvres politiques qui tendent vers une certaine dictature. Et franchement, c'est anachronique. Voilà, je voulais dire ceci à l'honorable. Je crois que l'honorable est un politique. C'est un élu, il a un mandat politique. Et je crois que toute initiative qu'il peut prendre ne peut pas ne pas considérer les aspects politiques dans lesquels nous sommes, le pays est en train de traverser et est en train de vivre. Alors moi je dis ceci, vu le contexte politique, par contexte politique j'entends ceci, nous tendons vers la fin du mandat, et de ses députés, et du chef de l'État, et de plusieurs, de plusieurs élus au niveau national. Nous sommes, par contexte politique, j'entends aussi toutes les suspicions qui règnent à ce jour autour du glissement, autour de la tentative de la révision constitutionnelle. Il y a des choses. Donc, ce contexte ne peut pas être ignoré par les députés nationaux
qui sont d'assumer un mandat politique. Merci beaucoup, M. Olivier.
Voilà. Je voulais juste dire
juste
nous avons
lui,
à organiser le référendum à deux
mètres. M. Olivier, on ne saura pas vous garder le plus longtemps parce qu'il ne reste qu'une minute. En conclusion, honorable.
Je voulais d'abord répondre à l'honorable John.
Oui, rapidement, parce que
je suis surpris que l'honorable John puisse me demander de sursoir ou de prendre d'autres initiatives.
Non, c'est irréversible. On
il
est
député comme
la
moi,
que vous avez
il peut aussi prendre d'autres initiatives, venir à la publique combien d'initiatives a-t-il déjà pris.
Non.
La bonne marche de la
loi. Donc maintenant, nous sommes au niveau du gouvernement. La loi pourrait revenir au Parlement pour examen et vote, je crois, au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, honorable?
En conclusion, nous disons que notre démarche est purement démocratique, constitutionnelle et légale. La loi que nous avons initiée, ce n'est pas la loi de l'honorable Lucien Kassongo Madiabita, c'est la loi de la République. Si aujourd'hui les gens ne trouvent pas l'utilité de cette loi, demain ou après-demain, l'avenir nous donnera raison.
Merci beaucoup, honorable Lika Kassongo Mwadiavita, cadre du PPRD, initiateur de la loi portant organisation ou la loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ce débat citoyen sur les ondes des radios Okapi. Nous disons merci à Hippolyte Kapanga qui est à la technique, Julie Fezabongonda a assuré la réalisation de ce programme coordonné et présenté par Pierre Lugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.